Nous sommes bien le mercredi 19 février. Je retrouve ce matin pour le deuxième volet de la semaine mes deux invités, Hélène Force, comédienne et chanteuse, et Frédéric Berry, chargé de production et de la programmation jeune public, pour le spectacle intitulé Les mille et un mots, un voyage au pays du genre, sous la direction de Frédéric Fusibé. Donc c'était un extrait musical du Voyage de Sahar d'Anouar Brahem, qui parle donc de voyage. Alors avec les mille et un mots et mots de comédiens, Chip, Aeschyle, Virgile, Aristophane et les mille et une nuits, des textes tour à tour drôles, tragiques ou poétiques, qui tissent une trame de questions et des fils de chaînes sans réponse. Hier, Hélène Force, vous nous avez un peu parler de la genèse de ce spectacle et de quoi il est question. Nous poursuivons ce matin. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce spectacle? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question?
Oui,
Hélène Force.
Alors évidemment, il y a beaucoup de choses en jeu, parce que quand on tire le fil du masculin et féminin, viennent beaucoup de questions en même temps, la violence, l'accueil. Alors si vous le voulez, je vais vous raconter deux petites choses.
Mais très volontiers, Hélène
Force. Comme je vous le disais, c'est un spectacle qu'on joue beaucoup, beaucoup dans les collèges et qui est, comme on dit maintenant, j'aime pas trop ce mot, mais interactif, c'est-à-dire qu'on pose des questions et les élèves nous répondent. Il y a même un atelier d'écriture. Alors par contre, dans la version tout public qu'on va présenter au mois de mars, il y aura un moment du spectacle où on va reprendre certaines idées qu'ont eues les élèves, mais il n'y aura pas d'atelier d'écriture pendant ce spectacle-là. Alors les sujets principaux abordés dans l'échange avec les élèves, c'est d'abord la place de la femme, de la jeune fille en particulier, dans la société. Et on part pour ça de Nausicaa, une fois qu'on a raconté la rencontre de Nausicaa et d'Ulysse, en se posant la question, comment ça se fait qu'une jeune fille, toute jeune fille, qui est encore une enfant, est en train de jouer au ballon avec ses copines au bord de l'eau? Et en même temps, on dit qu'elle est en âge de se marier. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une jeune fille se marie? Est-ce que vraiment, quand on est une enfant, à peine pubère, est-ce qu'on est en âge de se marier? Voilà, donc on se pose cette question. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que là-dessus, les mentalités ont extrêmement évolué, parce que la plupart des jeunes nous disent il faut avoir 29 ans, 28 ans pour se marier, donc ça, alors que c'est assez nouveau, donc il y a quelque chose qui a vraiment bougé. Malgré tout, les filles ont beaucoup de mal quand même à sortir du cocon familial, mais l'âge du mariage, la représentation a un peu changé. Et donc, en partant du sort de la jeune fille en Grèce, puisqu'en Grèce, la jeune fille, c'est vraiment un état particulier, donc on explique bien qu'à peine sortie de l'enfance, elle est présentée aux hommes du village qui ne sont pas mariés. que le mariage est arrangé avec le père, qu'elles épousent un homme souvent bien plus âgé qu'elles, et qu'à leur première règle, elles sont enceintes, et que le mari est très content d'avoir un fils qui lui ressemble, et la cité contente d'avoir un nouveau soldat. Voilà. Donc à partir de là, évidemment, ça peut créer beaucoup de réactions. Et la deuxième chose qu'on évoque avec eux, c'est de leur demander d'écrire la fin de l'histoire des suppliantes d'Eschyle, dont la fin de l'histoire a été perdue, hein. On n'a que le début du récit, le reste s'est perdu. Donc on résume, on leur raconte ça de manière simple. Il y a 50 jeunes filles égyptiennes, qu'on veut marier de force à leurs 50 cousins égyptiens. Ces 50 cousins sont des êtres brutaux. Elles savent que si elles acceptent le mariage avec ces cousins, elles seront traitées comme des esclaves. Elles prennent la mer en bateau avec leur père, parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer partir sans son père. Elles arrivent à une île, elles demandent l'accueil du chef de l'île, parce que les cousins les poursuivent, sinon vont les tuer. Et là, il y a une assemblée qui, dans la cité, est d'accord pour accueillir ces jeunes filles qui vont se faire tuer par leurs semblables si on ne les accueille pas, qui n'est pas d'accord et veut remettre ces jeunes filles à la mer. Donc on est évidemment là sur la question de l'accueil de l'autre qui n'est pas en sécurité chez lui, qui est une question aussi complètement actuelle. Donc on leur dit, bon, maintenant, racontez-nous la fin de cette histoire, comment ça se passe, vu que sur cette île, tout le monde ne réagit pas pareil. Donc vous voyez que de partir de ces récits hommes-femmes, ça ouvre sur l'histoire problématique du monde.
Et d'aujourd'hui.
Complètement, absolument complètement. Voilà.
Fred Berry, vous avez quelque chose à rajouter ?
Non, tout
par
d'abord...
Par rapport à la programmation, à cette programmation-là, par rapport à la réaction des élèves, parce que vous travaillez, expliquez-nous de quelle façon vous intervenez dans ce travail, en particulier là, puisqu'il est question des mille et un mots et mots, M-A-U-X, de quelle façon intervenez-vous ?
Alors, Fred Berry. Tout d'abord, bonjour aux auditeurs et auditrices. Moi, je n'interviens pas au niveau de l'artistique, purement. Je laisse ce soin à Frédéric Fusibé, qui le fait depuis très longtemps et qui le fait très bien. Non, moi, mon intervention, elle vient surtout sur la mise en relation, après, avec les élèves, à essayer de voir comment, justement, on peut faire jouer le spectacle dans différents endroits et faire en sorte qu'il rencontre différents publics, car c'est aussi ce que le spectacle, c'est la proposition qui est faite là, a justement de faire en sorte que ce message qui est très d'actualité, Hélène vient de le rappeler, la fin de l'écriture dépend on a des surprises avec les élèves, on a assisté à des débats au sein même du spectacle, parce qu'on reconstituait dans cette troisième partie du spectacle, on reconstituait l'assemblée et on demandait aux élèves de se positionner, et ça c'est vrai que les réactions étaient assez drôles, et étonnantes, drôles, parce que on voyait aussi que après il y avait un premier positionnement qui était, je dirais, un positionnement instinctif, une réaction sans peut-être avoir une réflexion, tout ça. Mais comme ensuite, on demandait de développer, de débattre, on les faisait débattre et de dire, mais pourquoi vous vous êtes positionné à tel endroit ou à tel endroit? Et là, on observait qu'il y avait une évolution aussi. Tout à l'heure, Hélène parlait de l'évolution de mentalité par rapport au mariage et à l'âge du mariage. Et là, on voyait qu'il y avait une évolution aussi au sein même du groupe qui, en fin de compte, se déplacer, changer son positionnement. Et c'est vrai que tout ça, ça a nourri beaucoup la réflexion et de Fred Fusibé, et ça nourrit aussi la mienne quelque part pour justement se dire, ces expériences-là, il faut absolument que tout le monde, pas spécialement la sphère des écoles, des collèges, le voit, mais qu'on puisse le montrer à différentes personnes, d'où la nécessité et l'envie de se dire, mais cet objet que l'on a créé l'année dernière ou il y a 2 ans, maintenant, retravaillons-le. Et donc ça, c'est Frédéric Fusibé qui a cette partie-là au niveau artistique, de dire retravaillons pour le montrer sur une version maintenant, je dirais, tout public. Donc on a gommé l'aspect atelier qu'il y avait au départ, pour maintenant le présenter sous forme de spectacle, mais ça n'enlève pas la force du propos et l'envie de montrer aux gens justement ce questionnement-là. C'est un petit peu là où moi j'interviens, hein, très modestement bien entendu, car la part elle revient essentiellement d'une part aux comédiens et aux comédiennes, et là en l'occurrence Hélène Force et Jérôme Beaufils, et ça revient aussi bien sûr à Frédéric Fusibé qui est qui a pensé à l'origine tout ce process, justement. Voilà.
En tout cas, ce qui est passionnant dans cette histoire de suppliante, c'est que on arrive à avoir un vrai débat politique avec des jeunes élèves, parce que souvent ce sont des sixièmes, qui ne dit pas son nom au départ, et on arrive vraiment à parler politique. Parce que, comme on est dans raconter une histoire avant tout, trouver des réponses très très concrètes. Des fois, je leur dis, voilà, les 58 filles, elles sont, quand ils n'arrivent pas très bien à comprendre, elles sont de l'autre côté de la porte, qu'est-ce qu'on fait? On les renvoie, on va les chercher, vous les amenez chez vous, dans votre chambre, qu'est-ce que vont dire vos parents, etc., etc. Et donc, très vite, on est dans les vrais questionnements, comment on va faire pour manger, est-ce qu'on a envie qu'elles soient là, et il faut mettre en place donc une société qui les accueille ou une société qui ne les accueille pas, qu'est-ce que ça pose comme problème, qu'est-ce que ça peut poser comme problème de guerre, de vengeance de leurs frères, jusqu'où veut-on prendre un risque. Et vraiment, ils se mettent à réfléchir, mais de manière très, 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 très concrète. Est-ce qu'on... sur le dormir, manger, qui sont ça les vrais problèmes politiques. L'autre, et alors des fois, on sort de certaines... heures de travail avec un espoir fou dans l'humanité, parce qu'il y a des gamins qui sont capables d'être vraiment visionnaires et extrêmement avec une réflexion tout à fait étonnante. Et puis quelquefois, on est un peu plus dans la pensée toute faite. Et là, c'est un petit peu plus triste, mais quand même, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de gamins qui sont prêts à réfléchir. Voilà.
Est-ce que vous savez l'impact que ça peut avoir au niveau de leur famille? Parce que ces jeunes gens-là ont un entourage. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des retours?
Malheureusement, ça, non. Malheureusement, ce sont parce qu'on les voit trois fois. On ne sait pas. Souvent, je me suis dit souvent, ils vont poser la question chez eux le soir.
Mais oui. Oui.
Mais en fait, j'en sais rien.
Mais on ne sait pas, on ne sait pas non plus la réaction des parents. Oui. Et est-ce qu'il y a chez eux aussi une correspondance entre ce qui se passe aujourd'hui ou pas?
Alors nous, on n'en parle pas.
Vous essayez de garder vraiment cet axe-là des textes antiques, les suppliantes, il s'agit des suppliantes, il s'agit de cette situation-là et pas d'une autre.
Voilà. Donc nous, on fait exprès de garder toujours cette distance, justement pour qu'il y ait plus de liberté de parole et un petit peu moins de pensées préfabriquées. Qu'ils pensent par eux-mêmes, mais évidemment, c'est sous-jacent, la situation est tellement parallèle, quoi.
Oui, c'est sous-jacent, mais en plus, c'est un travail qui... là, en l'occurrence, quand on intervient dans les collèges, c'est un travail ensuite qui est repris par les enseignants qui font la demande, parce que c'est les enseignants qui font la demande, qui nous font la demande de ce spectacle-là, car elles... Parce que le propos du spectacle les intéresse, les questionne, et que c'est quelque chose qu'elle prolonge ensuite tout au long de l'année. Alors, on n'a pas en effet, nous, le retour direct des enfants, des collégiens, des élèves, sur comment ils ont traversé. On a le témoignage immédiat de la réaction sur l'instant, mais on n'a pas en effet. Par contre, on a... de temps en temps, et fort heureusement, des témoignages d'enseignants qui, eux, ne rentrent pas dans le détail enfant par enfant, ce que ça a amené, mais qui nous expliquent ou nous témoignent justement de ce que les enfants ont parcouru justement sur toute l'année et de ce que ça leur a apporté. eux en tant que profs, comment ils ont continué, ils ont pu questionner, et c'est surtout ça aussi nous qui quelque part nous intéresse, c'est de savoir que ensuite ce que nous on a apporté perdure dans le temps avec l'enseignant.
Mais à la limite, il faudrait presque une formation pour les professeurs également, pour qu'ils restent sur ce sujet-là et peut-être pas sur l'actualité. Enfin, je ne sais pas comment c'est possible, mais est-ce que vous avez, vous, un impact ou une influence particulière sur le travail des professeurs ou pas?
Après, souvent, ce sont des professeurs, quelquefois latinistes, hellénistes, qui... Enfin, c'est vrai que...
Professeur de français,
professeur d'histoire géo. Donc, ils peuvent quand même très facilement faire des liens avec ce qu'ils ont dans le programme. On rencontre des professeurs formidables dans l'ensemble. Hein. Ce sont des personnes assez exceptionnellement investies. Voilà, souvent, le professeur qui demande une action, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est motivé. Et on, surtout cette année, on ne sent pas de fossé entre ce qu'on propose et le travail des professeurs qui sont toujours extrêmement, extrêmement heureux d'avoir... du monde qui vient compléter leur travail, apporter de nouvelles pierres, et on a vraiment l'impression que ça, voilà, ça fait une belle synergie, quoi.
Et ça peut changer les choses au long cours, on espère.
Les professeurs disent, même il y en a une qui a dit, ils se rappelleront de toute leur vie de ce qui s'est passé. Bon, c'était peut-être un peu exagéré, mais voilà, ce sont des petites pierres, les fameuses petites pierres qui sont posées sur le chemin. Puis on sait que un jour, une petite pierre a du sens parce qu'il y en a eu d'autres avant qui ont été posées. Voilà.
Alors, les recherches du Théâtre de la Mer interrogent les résonances du passé avec le présent, des mythes grecs aux témoignages contemporains, jusqu'aux auteurs des théâtres occidentaux et orientaux, en passant par le répertoire contemporain. C'est un champ d'écho multiple qui se tisse dans une région caractérisée par les migrations et les voyages. Je crois que tout a été dit sur ce sujet. Vous vouliez rajouter quelque chose, Hélène Force?
Sur les mille mots.
Peut-être pas, donc de toute façon, on a encore notre émission de demain et nous parlerons plus précisément de la programmation jeune public et puis d'un sujet qui vous tient à cœur également. Je vous laisse en parler.
Les filles du refuge, on parlera des filles du refuge.
Très bien.
Une autre aventure, mais qui est toujours la même quand même. Il s'agit toujours de parler de l'humain à travers les histoires. Voilà.
De l'histoire, des histoires et de l'histoire.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup à vous deux.
Non, ce qu'on peut redire, c'est redonner les dates du spectacle Les Mille Amours.
Absolument. Alors, on se donne du 5 au 7 mars.
Du jeudi 5 mars au samedi 7 mars au Théâtre de la Mer, 53 rue de la Joliette.
Tout à fait, avec deux représentations, le vendredi et le samedi à 19h. Voilà. Les gens peuvent venir, c'est en après-midi à 14h. Le jeudi à 14h, le vendredi, on joue deux fois, une fois à 14h et une fois à 19h.
Ah ben voilà. Et une séance en famille, samedi 7 mars.
Et le samedi à 19h.
Séance en famille à 20h. C'est pas ça.
De 20h.
Non, c'est une erreur.
C'est une erreur, c'était 19h.
Je vous en prie,
c'est 19h, c'est pas grave.
19h, très bien. Merci beaucoup, à demain.
Merci, à demain.
À demain, au revoir.